Bon, je vois que le sujet rassemble les foules, c'est très étonnant. Tout à l'heure, avec Raphaël Granier de Cassagnac, nous parlions de l'homme augmenté. Et l'une des premières augmentations, figurez-vous, qu'envisagent les hommes en général, elle est assez curieuse. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça se verrait. Pas en public, en tout cas. Alors voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de sexe, de littérature et peut-être un peu de cul. Mais c'est pas forcément la même chose. De tous les genres populaires, il n'y a peut-être guère que le western qui se soit montré plus prude que la SF, disait Kingsley Amis. Seules les couvertures des pulps se paraient de jeunes filles déshabillées, enlevées par de monstrueuses créatures, couvertes d'écailles, mais guère plus vêtues que leurs proies. Et à l'intérieur des textes, les rideaux sont tirés sur la scène de sexe qui aura encore moins lieu que la guerre de Troie. Et de toute façon, au vu de la morphologie des créatures, on se demande plutôt s'ils vont les manger que de les faire passer à la casserole. Il faut des romanciers comme Philippe-Joseph Farmer pour commencer à dénouer l'aiguillette de la SF. Dans son roman « Les amants étrangers », Farmer décrit un homme, Hal Yarrow, qui quitte la Terre et une femme nommée Marie. Marie, n'est-ce pas? Je vous fais pas de dessin. Bon, on loupe pas la référence biblique, s'il vous plaît. Pour une extraterrestre, une Lalita, hop, Lilith, autre référence biblique, qui lui fera connaître l'amour, la liberté et la détresse de l'amour perdu. Et donc l'exilé du jardin d'Éden redonne donc à cet homme, Adam, ce nouvel Adam, l'empire de ses sens. À la suite viennent deux illustres invités de ce festival, Norman Spinrad, Robert Silverberg, dans les monades urbaines par exemple. Il ne viendra à l'idée de personne de refuser un rapport sexuel à quiconque. Et puis Varley, qui non seulement rétablit le sexe en tant que réalisation affective, mais également s'aventure vers les rivages sulfureux, à l'époque, des sexualités, on va dire, alternatives. Alors, dans les héros de Varley sont joyeusement bisexuels, pansexuels, trisexuels, autosexuels. Ils se feraient des commodes empires. Si c'était possible.
C'est possible.
C'est aussi le cas dans Le Monde comme mythe de Robert Heinlein. Bien que les personnages d'Heinlein se limitent plus souvent à se menacer coquinement de fessées récréatives qu'à nous montrer ce qu'ils pourraient faire d'autres. Plus tard en France, des écrivains comme Francis Berthelot, dans La Lune noire d'Orient, nous apprendra que, en fait, l'homosexualité, c'est ce qui s'ouvre à l'univers. Voilà. Et dans La Bohème et l'Ivraie, Heyerdahl fera jouer à ces trois personnages dans tout un jeu fantasmatique qui les poussera, je cite de mémoire, à s'abreuver au même clitoris. Ce qui est une image redoutable. Cela étant, hors ces auteurs, le plus souvent, le sexe en SF, on en parle souvent. On en dit certes, c'est ce que je viens de longuement faire. Mais si on le montre, c'est avec des pincettes. Et l'accusation implicite pour l'auteur d'avoir donné dans la démagogie, pour parler poliment, s'il met une scène de sexe dans son livre, est toujours en suspens. Donc, pour nous parler de tout ça... Ah non, pardon, j'en ai oublié un bout de mon laïus, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée, je sors de l'ogme augmenté, et là, du coup, vous avez la femme diminuée devant vous. Alors, pourtant, le sexe, l'amour, c'est politique. Les deux années du mariage pour tous nous l'ont assez démontré, si on n'avait pas cru nos 68 tards de parents, voire grands-parents. Or, si la SF s'occupe massivement de science, elle s'occupe aussi, je pense, de politique. Et pour entamer le débat avec nous, le Festival des Utopiales a décidé de donner la parole à Chitaoué, Catherine Dufour, Charlotte Bousquet, et non, il y en a un que j'ai en moins, et Raphaël Granier de Cassagnac. Et donc, je propose à chacun d'entre vous de nous dire pourquoi vous êtes là pour nous parler de sexe. En fait, présentez-vous, s'il vous plaît. Et donc, ça sera Catherine, apparemment, qui commence.
On va faire en ligne. Déjà, je vous félicite tous d'avoir préféré cette table ronde sur le sexe à la finale du rugby. Je pense que c'est important de noter ça. Oui, là, tout de suite. Non, c'est un indicateur, à mon avis, un signe de bonne santé. Alors moi, donc Catherine Dufour, j'ai commencé à être publiée il y a 15 ans avec une trilogie en 4 volumes de fantasy humoristique qui s'appelle « Quand les dieux buvaient », où là, il y avait effectivement, ce sont des faits qui ont une vie sexuelle assez surdimensionnée, mais enfin, comme c'est de la fantasy, on va passer dessus. Après, j'ai fait des livres de science-fiction comme « Le goût de l'immortalité » ou « Outrage et rébellion », où il n'y a que du sexe. Et quand c'est pas du sexe, c'est de la drogue. C'est une bande de jeunes qui s'adonne à tous les plaisirs de la chair en attendant la fin. Et actuellement, je suis plus sur des livres de littérature dite blanche, comme L'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, où là, il y a aussi énormément de sexe. Mais c'est beaucoup plus politique, et comme c'est toujours pas de la SF, je vais passer dessus et passer la parole à Raphaël Granier de Cassagnac.
Merci Catherine. Alors moi je suis Raphaël Granier de Cassagnac, je suis physicien, mais alors ça n'a pas grand chose à voir avec le débat, pour une fois. Alors qu'en général, aux utopiales, j'arrive à... Je dirige une collection d'ouvrages augmentés qui s'appelle Ourobore. Le dernier a été fait avec Charlotte, entre autres. Et j'ai publié deux romans, Eternity Incorporated, dans lequel il y a beaucoup de sexe et beaucoup de drogue, comme toi, Catherine, et Thinking Eternity, dans lequel il n'y a pas du tout de sexe, mais un petit peu de drogue quand même. Et pour répondre à ta question, pourquoi je suis à cette table ronde, comme je suis aussi modérateur de table ronde aux Utopiales, j'ai accès à la liste des tables rondes avant tout le monde. Et donc, quand j'ai vu la liste, j'ai dit, celle-là, je veux y aller.
Alors que moi, on a dit, celle-là, tu vas t'en occuper. Il doit y avoir un message.
Non, en fait, j'ai dit, je veux y aller et je veux que Jeanne soit...
Charlotte Bousquet. Eh bien, donc Charlotte Bousquet, je suis autrice, j'écris une trentaine de romans... pour adultes, pour les ados, et j'imagine que si je suis là, c'est pour ma trilogie de fantasy, où il y a énormément de sexe, absolument rien de scientifique, mais il y a beaucoup de sexe, de mort et de politique, donc je pense que ça doit être une bonne raison d'être à la table.
Bonjour, je suis Ji Dawei, je suis de Taïwan. Taïwan, 不晓得大家知不知道今天就是台湾举行同志大游行的日子，那台湾举行的同志大游行是亚洲规模最大的。
Bonjour, je suis Ji Dawei, en fait je suis Su Zhukang, je suis l'interprète de Ji Dawei. Et je viens de Taïwan et je ne sais pas si vous connaissez ou pas, à Taïwan ce jour-ci on a organisé... des dizaines de milliers de Taïwanais se mobilisent pour, en faveur de la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe. Et c'est une...
Merci.
C'est une manifestation le plus grand en Asie, en fait.
我很庆幸来这边。那我现在在 我除了写小说之外，我现在在台北的大学教台湾文学，尤其是台湾文学中的同性恋。因为台湾很特别的地方是，台湾的同性恋文学几乎没有中断过，几乎有超过60年的历史。过去60年以来，台湾一直有同性恋议题的作品出现。 那我自己的小说《魔》Membrane，其实呢也是充满同性恋情欲的故事。En
fait, moi, je suis aussi un professeur à l'université Zhengzhi à Taipei, Taïwan. J'enseigne la littérature taïwanaise et surtout sur la question, j'interroge sur la question. Concernant la littérature LGBT à Taïwan. Et en fait, à Taïwan, la littérature LGBT existe depuis 60 ans et ça dure longtemps et voilà, c'est tout. C'est à peu près assez synthé, mais c'est ce qui exprime.
Est-ce que la science-fiction est une façon de faire passer le message LGBT à Taïwan ?
Que, 科幻小说呢，主要是在台湾社会常常是被当作一种政治的 satire， 所以说它可以用来表达很多种议题。那当然还有环境保护，那还有核能电厂，那除此之外，同性恋当然也是一部分。
À Taïwan, le roman science-fiction est plutôt une plateforme pour discuter certains sujets politiques, parce que c'est un peu délicat d'évoquer le sujet politique en vie réelle, en réalité. C'est pour ça qu'on exprime ou apporte certains sujets politiques à travers le roman science-fiction, mais c'est aussi un moyen qu'on peut exprimer ou apporter des autres sujets comme le mouvement LGBT et aussi sur le sujet écologique.
Et vous trois, les problématiques de genre et LGBT sont-elles très importantes dans vos œuvres, dans votre façon de concevoir la science-fiction?
Comme j'ai le micro, je vais
c'était une question faussement naïve.
Non, mais pas du tout. C'est complètement marginal, en fait.
Ah oui,
ouais, bien sûr. En fait, je crois que c'est un des sujets qui mérite vraiment d'être défendu. Je suis désolée, il est tard. Mes romans sont pas pansexuels, mais en tout cas gay, lesbien, hétéro, et je trouve que la fantasy et la science-fiction sont aussi une manière de libérer la parole sur le genre, de poser des questions sur les genres et sur l'identité aussi. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais j'ai répondu.
Tu as répondu quelque chose, c'est
voilà,
bien.
Exactement. Donc Raphaël.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Charlotte. Ça dépend vraiment de ce qu'on écrit, quoi. Si on est dans un monde dans lequel l'homosexualité pose un problème, il faut que ça pose un problème dans le roman également, et puis on peut traiter cette question-là. Dans mes romans, a priori, ça pose pas de problème. Je me suis pas aventuré à investiguer un peu cet aspect-là. Mais je me suis amusé quand même. Il y a une allusion à un moment qui est clairement homosexuelle. Il y a plein de gens qui la voient pas du tout. Mais il y a des gens qui la voient et ça les fait sourire et ils viennent m'en parler, c'est intéressant. Et il y a aussi pas mal de scènes d'orgie dans lesquelles je donne pas beaucoup de détails. Et pareil, les gens, j'aime bien avoir le retour des gens qui voient pas forcément le... Donc il y en a pour lesquels c'est des orgies évidemment pansexuelles et d'autres pour lesquels non, c'est clairement hétérosexuel et surtout pas de...
Donc en fait, tu l'as écrit pour que si on ne joue pas sur les paramètres, si on ne réfléchit pas aux paramètres par défaut... On la voit cisgenre, donc enfin hétérosexuelle.
On la voit comme on veut.
On la voit comme on veut. Oui, c'est ce que je disais. Ouais, il a triché. Catherine.
Oui, alors avant de parler de mes livres, je vais vous parler d'un autre reçu de René-Marc Dolène. Reçu une chouette pub pour un bon livre de SF. Perdu dans une société future qui refuse toute loi naturelle et où la théorie du genre et la PMA sont devenues le fondement de la famille, le jeune Louis part dans une quête effrénée pour découvrir qui est sa mère biologique. Écrit dans un style alerte et plein d'humour, ce livre est à rapprocher de 1984. Alerte et plein d'humour, c'est à ça que ça me fait penser. Comme toute œuvre d'anticipation, il décrit un futur possible, sans manichéisme et sans jugement sur les uns ou les autres. Ce roman nous invite à une réflexion profonde sur ce qu'est l'humanité, écrit par une mère de 5 enfants. Voilà, je n'ai pas le titre de l'œuvre et je ne vais pas le chercher, mais il faut savoir que dans la SF, il y a le meilleur et le pire. Voilà, donc moi, pour parler de mes livres, le monde tel que je l'entrevois d'ici 200 ans, parce que, en gros, dans un livre, je pense qu'on donne tout simplement à voir à d'autres un aspect de son monde intérieur. Le problème LGBT ne se pose plus en ce sens que j'ai imaginé qu'on vivrait tous, on serait très nombreux sur une terre très polluée, donc on vit dans un espace très étroit. Donc quand on ne peut plus gambader dans la campagne, on fait gambader son avatar, et quand on ne peut plus créer sur de vastes surfaces, on se recrée soi-même. Donc pour moi, l'humanité telle que je l'imagine est amenée à se prendre lui-même comme un objet fluctuant, donc grâce aux biotechnologies, Il y a une réduction de l'espace pour vivre, mais il y a un développement des biotechnologies. Donc là, on peut tout imaginer, et notamment le fait qu'on change de sexe tous les jours, mais c'est pas le principal, parce qu'on change aussi de larynx et de pharynx pour changer de voix, on change de couleur d'yeux, on change de taille, on se rajoute des bras, on peut s'enlever des jambes, on peut se mettre des foufounes sur les jambes pour se faire baiser le fémur, on peut se mettre des clitoris sous le bras, comme ça quand on attend chez le dentiste, on peut s'occuper. Et voilà. On peut aussi faire jaillir des aspects archaïques, se faire pousser par exemple une petite queue résiduelle. Il y a aussi des angoisses pour les gens qui vivent sous terre. Ils ont une phobie du noir, donc ils boivent des liquides qui leur permet d'avoir un phosphorescent, qui leur permet d'avoir de l'éclairage jusque dans la rate et le foie. Ceux qui par contre ont l'habitude de se promener dans des souterrains très sombres ont un système d'allumage de la langue. Dès que vous ouvrez la bouche, ah, ça fait comme une lampe de poche. Donc j'ai imaginé une extrême plasticité des corps où finalement le genre n'existe tout simplement plus. Question suivante.
Alors, est-ce que la science-fiction, mais aussi la fantasy, parce que ta gueule c'est magique, ça marche aussi, hein. Est-ce que la science-fiction peut imaginer de nouvelles façons de faire l'amour? Vraiment nouvelles, hors du Kama Sutra. Je veux dire, comment est-ce que vous voyez, par exemple, l'amour dans l'espace? Alors, vous n'êtes pas obligé d'imaginer l'amour dans l'espace. Homosexuel, hétérosexuel, pansexuel, celui que vous voulez, mais dans l'espace.
Alors je crois qu'ils l'ont fait dans l'ISS ou qu'ils sont en train de le faire.
Ah
oui. Et on a évidemment la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour pas exploser contre le mur, quoi. Donc on imaginait un système de sangles, mais je crois qu'on ne saura plus très bientôt, parce que ça y est, c'est officiel, ils vont étudier la fornication dans l'espace.
On s'inscrit où? Dans l'espace,
moi, je l'imagine. Personne ne vous entend crier.
Mmh. Oui, tout à fait. Exactement. Dans l'espace, bah, effectivement, on verra avec une expérience concrète. Moi, je l'ai imaginé dans des espaces virtuels. Alors, dans mon premier roman, il y a des gens qui vivent dans des mondes entièrement virtuels. Et puis, alors, ils prétendent qu'ils ont une forme de sexualité nouvelle avec excitation de sens complètement nouveaux qui sont quasi numériques, en fait. Donc, vraiment, c'est des transhumains qui sont envoyés dans un ordinateur complètement numérique, et ils prétendent, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils ont découvert des façons d'exciter leur programme hyper bien.
Alors ma première vision quand tu as parlé d'amour dans l'espace, c'était Alien.
Ben oui.
Mais donc effectivement, je pense que c'est une forme d'amour nouvelle, peut-être pas.
Elle n'est pas totalement réciproque et la notion de consentement est assez limitée.
Voilà. Alors après, peut-être qu'on peut extrapoler, se demander effectivement si une forme nouvelle d'amour dans l'espace serait pas une réflexion nouvelle sur la manière de faire l'amour. Et on peut dire que quelque part, depuis les années 60, les hommes ont appris que les femmes pouvaient avoir d'autres façons de faire l'amour, par exemple avoir des orgasmes.
Je crois que c'est uniquement depuis les années 60 où ils étaient dans le déni.
Ils étaient dans le déni, mais si tu vas à partir du moment, je pense, où effectivement les choses se disent, on découvre des trucs. Où on redécouvre des trucs. Mais ça voudrait dire qu'il y a juste un discours qui change.
Oui, mais ça, c'est très européen, parce que peut-être Chitaway aura... Non, mais j'ai vu son œil qui s'allumait.
我的小说世界里面呢跟科幻的关系是这样的，其实呢我的小说主要是在呈现同性恋，那同性恋在台湾常常碰到一个问题是，除了性爱是否美好之外，更重要的问题是能不能够被家人接受，被家接受，被社会接受，被国接受，所以说我在谈论同性恋的时候，有些时候不得不 逃到科幻的世界里，因为我要避免家还有国的压迫。
Pour moi, le roman science-fiction, c'est plutôt un moyen pour traiter la littérature homosexuelle. et j'aimerais bien le traiter dans le roman science-fiction parce que dans la société taïwanaise et aussi le gouvernement, la politique, les enceintes gouvernementales, les autorités taïwanaises ne sont pas encore prêtes à accepter la littérature homosexuelle. C'est pour ça que je le traite dans la science-fiction. Et pour éviter la répression de la part des autorités publiques ou aussi les jugements des autres un peu trop durs.
Voilà. Donc vous êtes plus occupé à faire accepter la sexualité telle qu'elle est plutôt qu'à faire de la prospective sur ce qu'elle pourrait être.
Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
Je disais que Titaouais était plus occupé à faire accepter la sexualité telle qu'elle existe, y compris dans ses aspects homosexuels, pansexuels, etc., plutôt qu'à faire de la prospective sur ce qu'on pourrait faire en plus. Pour rire.
Okay. 同性恋的文学在台湾大概有60年以上的历史，那长久以来呢，作家们都尽量用 realism， 写实主义的方法，然后争取读者的同情。那可是呢，我觉得，我不是很想要去争取读者的同情，觉得有点很肉麻，所以说我有点故意要用科幻的形式，就是。 写我想写的东西，但是不要太关心社会喜不喜欢。那这个也就是跟故意用science fiction 来挑战 realism 的传统。Comme
j'ai évoqué tout à l'heure, l'histoire de la littérature homosexuelle à Taïwan, ça a duré déjà 60 ans, mais pour les autres auteurs dans ce domaine, ils traitent souvent le sujet par le réalisme. Et moi, je fais esprit de ne pas le traiter par la façon réaliste. Et pour créer un éloignement de ce que j'ai écrit. C'est pour ça qu'il met son histoire, son roman en scène science-fiction.
Alors donc, il y a une démarche pédagogique dans la SF quant au sexe, a priori, chez vous tous. Est-ce que vous vous sentez investi d'un message Elle ne se sent pas. Ça va. Vas-y.
En tout cas, en SF, on essaie effectivement d'inventer de nouvelles formes de sexualité. C'est juste pas facile, parce que finalement, depuis Cro-Magnon, on répète un peu toujours les... même 3 ou 4 positions avec variantes. Donc, moi, je m'étais arrachée sur une nouvelle qui s'appelle La croissance mathématique du plaisir, où il y a un type qui code un monstrueux template sexuel, c'est-à-dire qui vous donne l'illusion en 3D avec tous les senseurs de toucher et olfactifs aussi, qui vont bien. Vous avez donc l'impression de pénétrer dans une cavité, un labyrinthe rouge, qui est, on dirait, une espèce d'énorme vagin phallique. Et vous vous promenez là-dedans, il fait sombre, c'est rouge, les parois sont pulsatiles, elles se referment sur vous, et donc c'est une déferlante de tentacules, d'orifices et de langues. Et vous en ressortez 3 heures plus tard, essoré comme du linge, et plutôt content. Et donc c'est une nouvelle jouissance, totalement masturbatoire, mais extrêmement complète au niveau physiologique. Et ça a un succès fou. Donc l'inventeur se fait très exactement des couilles en or.
Ça tombe bien.
Et alors après, il va passer à une autre forme de jouissance. Et là, c'est la jouissance esthétique. Donc il va recopier sur une seule statue toutes les Vénus de Milo, Génitrix et autres. Il va essayer de faire la plus belle femme du monde, avec ceci en plus qu'elle a des cheveux qui déferlent comme la mer. Donc la mer, on peut la regarder infiniment. Donc c'est une femme qu'on peut regarder infiniment. Elle n'est pas, c'est pas une femme androgyne, mais elle a quelque chose qui essaye de transcender à la fois les genres et les âges. Et le problème est que du coup, On la regarde comme la mer, mais on ne peut jamais plonger dedans. On ne peut pas la posséder. C'est comme si vous essayiez de coucher avec la Vénus de Milo. C'est pas maniable. Et ça, c'est un problème. Et du coup, cette invention-là, au lieu de la vendre et de gagner encore plein de sous avec, il va aller la ranger au fin fond d'un coffre-fort le plus profond possible, parce que d'être face à la jouissance esthétique de vouloir posséder, de vouloir se fondre et de ne pas y arriver, au lieu de faire du bien, ça rend fou. Voilà. Donc là, il touche à une limite humaine. C'est ce que j'ai réussi à créer de plus éloigné de notre réalité sexuelle actuelle.
C'est en fait une espèce de syndrome de Sandal, mais...
Voilà, exactement.
D'accord.
Non, moi, je crois que dans mes romans, il n'y a pas vraiment de revendication sexuelle, à part peut-être quelque chose de l'ordre de la libéralisation légère. Mais ce pourquoi je milite, en revanche, c'est que quand on met une scène de sexe dans un roman, c'est souvent pas du tout anodin, même si c'est complètement justifié. Et on se prend souvent, en tout cas c'était mon cas, on se prend souvent des gens qui disent « Ah, t'as mis une scène de sexe, t'exagères quand même. » Ben non, j'exagère pas, mes personnages... Dans mon premier roman, dans la situation dans laquelle ils sont, ils font du sexe, c'est évident, c'est obligé vu la situation dans laquelle ils sont, et c'est important pour le lecteur de savoir comment ils le font presque. Et ça, je trouve que c'est vraiment un problème. Il reste évidemment une espèce de tabou sur ces questions-là, et tu peux difficilement dans un roman, enfin, ça pose question quand dans un roman tu mets des scènes de sexe d'une façon ou d'une autre. Et même quand je suis allé voir mon éditeur, je lui ai dit on les laisse pas, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit rajoute-en une.
Là, ça devient louche, tu sais.
Et non, et elle était extrêmement. Non, il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a dit non, tu peux les laisser, elles sont bien, ça passe bien, il n'y a pas de problème, c'est pas gratuit, ça sert le récit. Et en discutant sur le livre ensemble, on a fini même par en rajouter une. Mais ça pose question. Et dans les premières critiques, la toute première critique que j'ai eue, ça commençait par c'est le livre de science-fiction avec le plus de fellation que j'ai jamais lu. À mon avis, c'est pas vrai en plus, parce qu'il y en a pas tant que ça.
De fellation.
Et puis il y a pas que ça.
Science-fiction avec surtout. De la fellation.
Et puis.
Non, mais ça c'est pour tout à l'heure.
Et puis il y a pas que ça en plus. Lui, il a vu les fellations, mais il y avait d'autres choses. Mais.
Ok. Alors j'ai envie de dire que. Donc c'était quoi le sexe et... Donc c'est sexe et science-fiction, et pourquoi et est-ce qu'on milite?
Ça peut être et voilà. Sexe
et est-ce que je... Alors en fait, je pense qu'il y a deux... J'ai l'impression, enfin vous écoutant, que j'ai deux niveaux de discours dans mes romans. C'est que j'ai un aspect complètement bisounours. Alors bon, pour ceux qui ont... Non, pas du tout zoophile. Non, bisounours. C'est-à-dire que je pars du principe dans l'archipel des Numinés et dans généralement mes romans, sauf effectivement si c'est la thématique, que l'important c'est d'aimer et que peu importe qu'on aime un homme, une femme, quand on est un homme ou une femme, enfin voilà. Et j'ai un roman où on a une jeune femme qui tombe amoureuse d'un ibiri dont un homme est un démon, donc quelque part c'est pas le problème. Et après il y a une dimension qui est beaucoup plus, je dirais, philosophique et politique, là, qui bizarrement est beaucoup plus glauque, où le sexe peut être un moyen de faire taire, le sexe peut être une violence, ou pour moi simplement de savoir jusqu'où on peut aller dans la perversité humaine. Et là, effectivement, je crois que c'est là que les scènes de sexe deviennent un peu plus, peut-être un peu plus hard, et, mais très très mortifères, en fait, je me rends compte. Par rapport à ce que tu dis, Catherine, où toi, tout le monde s'éclate en faisant du sexe, et t'as des super vagins avec des tentacules, des clitoris et tout, c'est top. Moi, c'est plutôt des nécrophiles, donc c'est vrai que c'est... Du coup, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un gros problème, quoi. Ou alors j'ai une vision parfaitement pessimiste de l'humanité.
Tu n'es pas venu pour rien, et il paraît que l'objet de science est un aveu autobiographique.
Ok. Bon, bah, Fabien, si tu m'écoutes, je t'aime, mais...
cela étant, j'ai envie de te demander, c'est quoi la perversité? C'est quoi le mal absolu en termes de sexe?
En termes de sexe, écoute, c'est dans Arachnae, où un des modèles que j'avais pris, c'était les 120 journées de Sodome. Enfin, les 120... Attends, je sais plus où ils sont.
Les 120 journées de Sodome.
Ouais,
de Sodome,
oui. Voilà. Et en fait, c'était vraiment le fait de considérer l'autre comme un outil, comme un instrument, et de se foutre complètement de son existence. Alors, et là, en l'occurrence, c'était sur des enfants. Je sais pas si c'est le mal absolu, mais en tout cas, c'est quand même pas ce qu'on a fait de plus sympa.
C'est, en tout cas, John Brunner te rejoint totalement, parce que sur l'onde de choc, D'accord. Presque texto, il écrit « Le mal absolu, s'il existe, consiste à traiter l'autre comme un objet. »
Ben voilà.
Donc tu vois que tu es science-fictive, en fait.
Ah mais ouais, en fait, voilà. Hyper.
Yeah. Et alors, vous, en tant que, pas écrivain, mais lecteur, qu'est-ce que vous aimez trouver dans les livres des autres par rapport au sexe? Ça, c'est la question piège.
Marcel Ullebeck 的书，然后我觉得非常的喜欢，因为我在里面看到的，是当然除了它里面讲到的色情暴力之外，我看到了现代文明让我非常熟悉的孤独感啊，或者是悲伤感，那个是常常是跟性爱相关的，但是不见得被表达得很清楚。但是我在 Ullebeck 的书上书里面看到了。
Pour moi personnellement, j'aimerais bien le roman de Michel Ullebeck et
c'est
Ullebeck. C'est pour plusieurs raisons que j'aime bien ce roman, mais une des raisons c'est pour laquelle j'aime bien ce roman, c'est pas en raison de sa violence ou les sujets violents traités dans son roman. Je vois plutôt la solitude dans la civilisation moderne maintenant. C'est un sentiment qu'on éprouve à la vie quotidienne, et c'est pour ça que j'aime bien en tant que lecteur, j'aime bien le roman de cet auteur là.
Alors, allez, vas-y.
Qu'est-ce que j'aime trouver dans les œuvres des autres en termes de sexe? Ben, c'est cohérent avec ce que j'écris, évidemment. Donc une scène de sexe, c'est important que ce soit bien réussi.
Voilà, mais alors comment c'est une scène de sexe bien réussie?
Et pour moi, le point clé là-dedans, et qui pêche souvent, c'est le réalisme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes de sexe dans lesquelles je ne crois pas, quand je les lis, et même quand je les vois, si vous voyez ce que je veux dire.
Comment ça, quand tu les vois?
Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Et ça, c'est important. Enfin, moi, pour moi, les scènes de sexe qui vont particulièrement me toucher dans l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est celle-là. C'est celle où je me dis, ah bah, j'y crois, je pourrais y être. Je comprends le personnage, je comprends comment il le fait, pourquoi il le fait, ce qu'il en retire, et tout ça. Et curieusement, bah, je rejoins notre ami taïwanais. Justement, quand je lis Houellebecq et les scènes de sexe de Houellebecq, j'y crois. Alors, elles sont passées pas forcément les plus radieuses qu'on puisse imaginer, hein, les plus optimistes et tout ça, mais j'y crois. Ces personnages, pour moi, sont extrêmement crédibles, ancrés dans un monde assez misérable. Ils sont très seuls, comme tu l'as dit. Et justement, ces scènes-là, j'y crois.
Bah, je serais assez comme toi, déjà, que ce soit crédible. Et l'autre chose que je rajouterais, c'est bien écrit. Mais c'est pas là sur le coup propre à la sèche. Je lis énormément de bouquins, y compris Bitlit et tout. Et des fois, c'est juste super répétitif au niveau du vocabulaire. C'est juste ça. J'aime bien quand les gens font preuve d'inventivité et aussi que c'est que ça coule de source avec l'histoire. Et du coup, j'ai rien dit. C'est... Ok, bon, d'accord. Que ça coule vraiment beaucoup de sources à ce moment-là.
Voilà. Vive les femmes fontaines.
Exactement.
Voilà.
Que les,
faut le dire,
voilà, ça, parce c'est que c'est vrai que sinon c'est. Mais en même temps, je dirais que c'est au même titre que n'importe quelle scène. L'important, c'est que ce soit bien construit, bien écrit, que ça nous emporte, et le reste, voilà quoi. C'est.
Tu n'as pas d'attente particulière. Ce que tu veux, c'est juste que ce soit bien écrit et crédible. Mais en termes de je sais pas.
En termes, je dirais. Mais après, tu vas redire que je suis complètement morbide. Mais je veux dire, c'est comme
non,
un crime.
Non, c'est pas moi qui le disais, toi.
C'est
hein.
Moi. Alors même.
Je suis désolée. Hein, moi, j'ai rien
dans
dit.
Dans un thriller et tout ça, il est vachement important aussi que le tueur en série soit crédible.
Ah bah oui. Sinon, non, voilà. Pas gentil.
Et bah voilà. Et bah la scène de sexe, c'est pareil. Quand je te disais que c'était
Non, mais tout à l'heure, tu parlais de faire baiser les bisounours. Alors, excuse-moi, tu touchais à mon enfance. Hein.
Moi, je me souviens du temps où j'étais jeune. J'avais décidé de me constituer une bibliothèque d'ouvrages érotiques purs, c'est-à-dire globalement largement pornographiques. Et en fait, j'en ai trouvé un, c'est Histoire d'eau. Et après, j'ai cherché et j'en ai trouvé un deuxième. Enfin, c'est Crébillon. Crébillon, 18e siècle, il a écrit des trucs fort sages, d'autres trucs qui étaient pas mal du badinage classique. Et il a écrit sur commande, et pas sous son nom, quelques livres dits pornographiques, et qui, en fait, étaient intégralement sauvés par son écriture délicieuse. Et depuis, je suis un peu en panne. Il y a de bonnes scènes de sexe dans des livres, mais de la bonne littérature basée sur le sexe, c'est très difficile. Cela dit, c'est vrai que les Houellebecq, c'est ce qui vraiment ce qu'il sauve humainement et à tous les niveaux. C'est la même chose que Romain Gary. C'est son amour inconditionnel pour le sexe féminin. Et sans lui, il est perdu et il le fait bien ressentir. Romain Gary avait toujours dit, lui, la une seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est d'écrire et de baiser. Et donc le jour où j'arriverai plus ni à l'un ni à l'autre, j'arrêterai. Et il a eu deux fois le Goncourt, il pouvait pas difficilement l'avoir trois. Et à l'époque, il s'est retrouvé impuissant, le Viagra n'existait pas. Donc il a pris une carabine et il s'est mis devant un miroir pour pouvoir voir l'effet que ça fait de se tirer une balle dans la tête. Il allait donc jusqu'au bout de ce qu'il avait dit. Autre chose donc sur le sexe dans la littérature, vous avez devant vous la seule personne au monde probablement qui non seulement a lu Fifty Shades, mais l'a relu.
Pardon ?
Merci. C'est un bel effort.
Si on m'avait demandé qui c'était, j'aurais jamais parié sur Catherine Dufour.
Jamais. Et juste après, j'ai lu Twilight et je l'ai relu.
Là non plus. Et alors pourquoi ?
C'était pour faire un article dans Le Monde diplomatique sur l'évolution de la pornographie féminine et de est-ce qu'il y a la création d'un imaginaire érotique féminin à l'âge actuel. Alors heureusement, à côté de ça, j'avais quand même à lire quelques ouvrages un peu plus sérieux sur le sujet. Et j'en ai fait un article qui s'appelle « Pornographiquement correct ». Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup lu et relu de choses assez pénible pour arriver à accoucher de très exactement 4800 signes dans Le Monde diplo.
Très joli.
Et je me suis trouvée admirable sur ce coup-là. Il y avait une autre chose moi qui m'avait marqué une fois, c'était chez un éditeur que je ne nommerai pas, qui avait un auteur que je nommerai pas non plus, qui lui fait pas de la SF mais il fait de la fantasy, et c'est de la fantasy sévèrement burnée, mais que moi j'aime bien, qui est bonne, qui est pleine d'action. Et alors c'est plein d'elfes, qui ont des grosses épées, et ils ont pas que ça. C'est un peu comme si, dans Le Seigneur des Anneaux, tous les elfes, tout d'un coup, passaient leur temps à se bousculer sur le gazon. Et il y a des scènes de sexe tout le temps, partout. Je vous donnerai le nom si vous venez me voir après. Et en fait, il y en a trop, là, quand même. Il y en a trop, il y en a encore plus que de batailles à l'épée, à la boule de feu. Et donc, je suis arrivée chez l'éditeur, et par terre, il y avait plein de feuilles à quatre, et on marchait dessus, et je lui dis, c'est quoi ? Il me dit... Écoute, c'est toutes les scènes de sexe que je viens d'enlever du livre de Michel R. Parce que là, quand même, on a décidé qu'il y aurait une scène de sexe, une scène d'action, et pas un pour dix. Voilà. Et j'avais trouvé. En plus, c'est roboratif, c'est pas mal écrit. Les scènes de sexe, on ne démérite pas du tout. Et ça a un effet marré qui est comme ça, un écrémage par l'éditeur, et qu'on marche sur des vulves, des seins et des hampes érigées et ruisselantes. C'est un bon souvenir.
Waouh ! Alors, puisqu'on en parle, dans le style lui-même, le style de la scène de cul, excusez-moi, là on va y aller direct, hein, le style de la scène de cul est très souvent métaphorique. Alors, ça brûle, ça flamboie, ça frémit, il y a des torrents, il y a des choses, enfin, les arbres tournent. Quelle est votre place par rapport à la métaphore sexuelle dans votre œuvre ? Vous en faites quoi ? Est-ce que vous êtes franc du collier, frontaux ? Ou plutôt derrière le voile de la métaphore ?
Non, moi, je crois que j'ai évité. Il faut que quelqu'un d'autre me le dise, mais me le confirme. Mais je crois que j'ai plutôt évité moi la métaphore et le. Après, j'ai une écriture assez directe qui avec assez peu de descriptions. Je m'épanche pas sur Je préfère le. J'aime beaucoup en particulier que le lecteur imagine les choses lui-même. Donc je pense que j'ai décrit les choses de façon assez crue. Et en évitant. Tu parlais de torrent, une chose comme ça.
Tu sais, ils n'ont pas des pénis, ils ont des flambeaux. Des choses comme ça. Tu sais, c'est la...
Ça me rappelle un vieux film porno qui finissait par des. Par des feux d'artifice, c'est-à-dire quand il y avait des orgasmes, le truc s'arrêtait et puis il y avait des vrais feux d'artifice. Je vois pas vraiment l'intérêt.
Ou des bouteilles, tu sais, de champagne qui pouf, pouf.
Oui,
pouf.
Ça c'est très joli.
Ça c'est très joli. Alors ?
我其实用了一个台湾人常常熟悉的意象，就是修摩托车。在台湾，很多人，交通工具呢是摩托车。那我觉得，去摩托车修车厂，把自己的摩托车拆开，那个让修车师傅去修的过程，就好像在目睹那个师傅在跟一个cyborg做爱一样。
Dans mon roman Mon Prane, en fait, j'utilise la scène, la réparation de scooter pour décrire la scène de sexe, aussi pour métaphore, pour illustrer un peu l'orgasme, en fait, le processus de la scène de sexe. Pourquoi j'utilise ça? Parce que pour moi, selon mon avis, quand le garagiste qui répare, qui décompose le scooter, pour moi, c'est une sorte de faire l'amour pour moi.
Ah, huiler les vis
patinées.
C'est
un peu. Mais, ouais.
Non, ne me traduis pas, c'est pas la peine.
J'ajoute une phrase.
我在看到我的车子被修的时候，觉得那个拆开的机车就非常像是 Francis Bacon 画的人体解剖图。Pour
moi, à mes yeux, quand je vois que le garagiste qui décompose le scooter, pour moi, ça ressemble à la peinture du peintre anglais Francis Bacon. Pour moi, c'est une sorte d'anatomie. Oui, tout à fait.
Là, il nous a séché avec son scooter.
C'est traduit ou pas? C'est traduit? On peut le lire?
Oui.
Le titre?
Le titre. Le titre de la peinture? Mon Prane. Le roman Mon Prane.
Et il est à la librairie?
Super.
Non, on n'a pas tout à fait fini. Charlotte, tu n'échapperas pas à la métaphore sexuelle dans ton œuvre.
On va continuer dans le bord vide. Non, il n'y a pas vraiment de métaphore dans ce que j'écris. Et je crois que je prends même un malin plaisir, en tout cas quand il s'agit de pédophilie, de viol et de nécrophilie. De décrire de manière extrêmement froide, un petit peu façon autopsie. Sinon, il n'y a pas besoin de parler de flambeaux, comme tu disais, et de petits arcs-en-ciel pour parler d'un orgasme. Voilà. Tu disais pas un petit truc comme ça, c'était pas ça?
Non, les flambeaux, ça allait, mais c'est les arcs-en-ciel qui m'ont perdu là. c'est à cause des bisounours, ça.
C'est à cause
ça
des
doit
bisounours.
Être un organisme de bisounours, les arcs-en-ciel.
Avec mon petit poney. Voilà.
Cela étant.
C'est une forme de. Oui, il y a des.
Il y a des licornes bizarres quand même, j'ai cru comprendre sur Internet. Parce que devenu My Little Pony est assez étrange.
Et tu peux même trouver, pour être IRL, des plugins, un plug anal Mon Petit Poney. Et là, je ne sais pas dans quel domaine on rentre, mais bon.
Alors si, justement, alors on n'y rentre pas, hein, surtout.
Je te trouve bien prude, là.
On n'y rentre pas parce que je vais aller dans Pierre. Alors, à votre avis, oui, tu veux faire des métaphores. Fais des métaphores, Catherine.
Non, juste mon petit mot sur métaphore, chérie, tu vas prendre froid. Pas de moi.
C'est comme métaphysique.
Voilà.
Voilà.
Et comment décrire? Alors là, j'en ai beaucoup parlé. On a fait un pool à un moment avec des écrivaines et notamment une sex-blogueuse nommée Maria Mazoret. Et on s'est dit comment faire pour écrire une scène de sexe qui soit à la fois, qui ne fasse pas artificielle, qui soit plaisante. Et en fait, on n'a pas trouvé la réponse. Hein. On a beaucoup réfléchi. C'est simple, le langage sexuel, soit il est métaphorique, hein, on l'a vu, il y a la hampe, la feuille de rose, bon. Soit il est insultatoire, obscène, soit il est médical. Entre les trois, on n'a pas encore inventé un langage. Et là, je dirais, jeunesse, c'est maintenant à vous de travailler sur cet article.
Alors, normalement, c'est pas au modérateur de la ramener, mais je vais le faire. Tant pis. J'ai tenté, la dernière scène de cul que j'ai écrite, j'ai tenté la scène de cul neurobiologique. Voilà. C'est-à-dire, il faudrait que vous la citez là de mémoire, non. Mais c'est tout l'échange des hormones, le putamen, mince, là, je suis plus étanche, donc je n'arrive plus à retrouver tous les centres du plaisir. Mais en fait, tout ce que raconte la narratrice, c'est ce qui se passe électrochimiquement dans son cerveau. Et pourquoi ça l'amène à l'orgasme et pourquoi c'est merveilleux que son compagnon arrive aux mêmes échanges électrochimiques au même moment. Voilà. Mais ça a été ma tentative de transcender l'histoire de la métaphore. Parce que c'était en bitlite et que la bitlite est un genre qui joue avec la métaphore sexuelle terriblement. Voilà, c'était juste le passage de la ramène avec moi. Mais c'est pas écrit, donc vous ne le trouverez pas à la librairie, donc je ne vous le vends pas. Voilà. Alors, du coup, ça m'amène au fait que j'ai oublié ma dernière question. Le cul, c'est ça. J'ai oublié ma dernière question. Alors... Nous en étions à la métaphore sexuelle. Zut. Aidez-moi. Ah ben voilà, c'est ça, c'est le public que j'avais oublié. Pardon. Il y avait un public. Y a-t-il des questions dans la salle?
C'est pour toi, je pense.
Ah pardon.
Oui, bonjour. Je trouvais un peu dommage la dichotomie que vous opérez entre parler de écrire une scène de sexe de manière crue ou obscène ou avec des métaphores. Effectivement, des métaphores, c'est un peu glissant et ça retire
le sexe aussi, c'est un peu glissant.
Pour ainsi dire, et ça retire même, ça retire le plaisir de la chose, quoi, de l'intérêt même de la scène de sexe. Mais je trouve que la suggestion est parfois meilleur et on peut décrire une scène de sexe sans parler de sexe. Et bon, je prends un exemple qui n'est pas du tout de la science-fiction, mais dans Apocalypse Now, quand Martin Sheen et ses Marines arrivent chez des colons français, donc ça c'est dans la version Redux, hein, c'est pas dans la version originale, mais il y a notamment une scène où ils se retrouvent au lit avec une actrice française qui s'appelle Aurore Clément, et à la fin de cette scène où ils ont un dialogue, elle sort du lit et elle enlève sa chemise de nuit, mais il y a les baldaquins, les rideaux du lit à baldaquins sont défaits, donc on distingue sa silhouette, on distingue ses courbes, et voilà. Et il y a pas de sexualité qui est montrée à l'écran, mais évidemment c'est suggéré puisqu'elle referme tous les rideaux du lit et après ils ont un dernier échange un peu éthéré. Et on a une scène de sexe qui est suggérée, mais qui n'est pas montrée. Et que je trouve finalement plus jolie, plus efficace, plus poétique, sans être dans des trucs prout-prout de métaphores, effectivement. Et on a un truc quand même assez riche, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une place, est-ce qu'on ne peut pas s'insérer, pour ainsi dire, dans ce créneau-là, quoi?
Insérons-nous. Je pense que tu as raison, mais ce que disait. avec plaisir. Ce que disait Catherine est très juste, soit tout le vocabulaire sexuel, donc tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer pour nos organes génitaux et autres pratiques, je pense qu'on peut tous les catégoriser dans une des trois catégories que tu dis. Même si l'intention initiale même s'il n'y a pas d'intention initiale, les termes, ils finissent soit dans le registre vulgaire, soit dans le registre médical, soit dans le registre, c'était quoi le dernier? Métaphorique, ouais. Et donc, effectivement, une façon de s'en sortir, c'est de suggérer, mais c'est aussi dommage, parce que c'est une, c'est une question de... C'est une... mais c'est un peu dommage, parce que bah, la suggestion, c'est une recette qui est très très forte pour décrire tout et n'importe quoi. Mais ce n'est qu'une recette, donc oui, c'est bien, évidemment, il y a des scènes suggérées qui sont magnifiques, je suis d'accord avec toi. Il n'empêche que c'est aussi intéressant de décrire des scènes plus visuelles, quoi, plus crues.
Peut-être qu'elles n'ont pas la même visée, en fait. Lorsque, si j'ose dire, peut-être c'est ça.
C'était exactement là ce que tu allais dire.
Mais vas-y, Charlotte.
Mais non, mais vas-y, t'avais commencé. Ah bah, continue. T'arrêtes pas, on me suit mon chemin. C'est un peu frustrant, quand même.
Oui, c'est vrai. Quoique le tantrisme dit que... bon, passons. Alors... Donc peut-être que la scène érotique, puisqu'on va faire l'opposition entre érotisme et pornographie, là, pour le coup, peut-être que la scène érotique n'a pas la même visée que la scène pornographique. De mon point de vue, lorsque Catherine se lance dans les histoires de clitoris sous les bras, on est pédagogique quant au sexe, on a une intention politique, donc il faut qu'on montre ce dont on parle. Alors que finalement, dans l'érotisme, là, on essaye juste de titiller un peu le vôtre, de vous faire partager les émotions, les sensations du héros. Et finalement, le sexe n'est pas effectivement important dans le propos à ce moment-là. Donc, autant que vous l'imaginiez tout seul. Enfin, moi, c'est comme ça que je le verrais. Maintenant, Charlotte...
On est en train de partager la même vision, Jeanne.
Non, mais on va s'en remettre. De toute façon, je bois pour oublier.
Oui, est-ce que une scène de sexe est particulièrement agréable à écrire quand on reste dans les clous, ou alors est-ce que quand on innove un peu c'est beaucoup plus agréable à, ou plus sympathique à écrire, quoi, ou alors si c'est vraiment chiant à écrire?
Je dirais que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Pour moi, ça dépend complètement du moment, enfin de la... du moment du roman, simplement. Est-ce que c'est... je ne les traite pas différemment, si vous voulez, du reste. Donc, il faut qu'elle soit nécessaire. Innovante ou pas, bon, après, c'est toujours... Enfin, c'est souvent, quand il s'agit de scènes de sexe, comme disait Jeanne, et pas d'érotisme, c'est par un souci politique ou d'efficacité ou d'exploration de l'âme humaine. Après, ce qui peut être un peu pénible, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve que la langue française explore très très vite les différents noms qu'on peut trouver au sexe.
Tu dis ouais ?
其实我的小说里面呢，我举一些那个台湾自己的例子哦。那台湾的同性恋文学常常会召唤出军队的想象。 因为在台湾呢，每个男生都要当兵，然后呢，大家都假想要跟中国打仗。那可是呢，其实很多男生在住在一起，所以说就很多跟同男同性恋有关的 sex fantasy， 不管是真的还是假的，发生在军队里面。那我有些时候写小说，就当然会写到他们。 那他们可能会在一边做爱的时候，一边，然后他们在一边听国歌，一边听爱国歌曲，一边做爱。那这个可能是台湾比较少有的情，法国人可能比较不知道我们这样。
En fait, je prends encore l'exemple dans mon roman. En fait, dans l'histoire taïwanaise, la littérature LGBT évoque souvent la scène de sexe au sein des camarades militaires, on dit dans l'armée, parce que chez nous, c'est obligatoire de faire l'entraînement militaire pour les hommes. Et dans ce cas-là, c'est assez fréquent que pour la littérature homosexuelle de Taïwan qui évoque la scène de sexe parmi les hommes militaires. dans mon roman, j'utilise aussi, et pour être ironique, aussi caricature un peu, je décris aussi la scène de sexe entre les hommes militaires, et ces hommes militaires écoutent en même temps l'hymne de Taïwan. C'est un peu...
Moi, je trouve que c'est difficile à écrire, mais c'est génial à relire.
Eh bien, à moins qu'il y ait une dernière question, nous allons... Ah, il y en a une, oui, j'ai une l'impression. Question.
Et avant ma question, j'avais juste un petit rappel par rapport au sexe dans l'espace. Je crois qu'il n'a pas fait exprès, mais c'est Pierre Boulle qui en a fait une très bonne.
Ah.
C'était une nouvelle, mais c'est un homme assez pessimiste, donc ça se passait très mal, tout le monde rebondissait partout, effectivement.
Eh bien, moi, ce qui m'interroge dans la scène de sexe dans l'espace, c'est le devenir des sécrétions ensuite. Je vous avoue que ça me pose tout un tas de soucis narratifs.
Ouais. Sinon, là où je voulais en venir, moi, de ma question, c'était pas à ce sujet-là. C'était que dans toute la conférence, là, on a abordé surtout le thème technique. Et il y avait aussi un thème là, donc, avec l'ASF et le sexe. C'était l'utilisation du sexe pour le contrôle de population dans les dystopies ou finalement dans toutes ces sociétés qui peuvent être futuristes et qui peuvent modifier le contrôle du sexe. Et c'est vrai qu'il y a quelques exemples dans les...
Quelle dystopie ? Tu n'as pas l'impression que le sexe est contrôlé de nos jours ?
Oui, mais par exemple, bon, moi je pense à une œuvre japonaise qui s'appelle Shinsekai Yori, oui. Où il reprend ce qui se passe chez les bonobos et qui disent que l'utilisation du sexe à répétition sert de contrôle des émotions.
Oui, oui, lorsqu'il y a un tyran, on le branle pour qu'il se calme. Oui. Quelqu'un veut répondre
à ça ? J'avais envie de dire que je ne sais pas, mais actuellement on a un truc qui s'appelle les viols de guerre, on a Daesh, on n'a pas besoin de science-fiction pour ça. Enfin, je suis désolée, c'était la note pessimiste, mais...
Tu veux que je trouve mieux ?
Vas-y.
Il paraît qu'au Japon, mais alors là, j'y vais avec des pincettes, si j'osais, il paraît qu'au Japon, les mères trouvent normal de masturber leurs enfants pour les calmer avant les examens.
Ça me fait penser à une scène dans Police.
Voilà.
Donc, autant pour la science-fiction, on est super forte là. Je trouve qu'on a bien tombé en fait,
je crois que la science-fiction n'a pas fini d'explorer les recoins intimes du sexe. Et nous allons nous arrêter là. Merci d'être venus. Merci à vous tous.